Numéris le confirme. BPM Sport a vraiment le plus gros tailgate à Montréal. En un an, Tailgate Weekend double ses parts de marché chez les hommes 25-54. BPM Sport. Maintenant, la radio de sport numéro 1 au Canada.
On salue Stéphane Thériault qui est en route, qui amène son fils de 7 ans pour son premier match de hockey en carrière. C'est pas formidable, ça? On le salue et on va continuer de faire les salutations. Il y a Pierre qui est directeur d'un IGA qui nous écoute à chaque week-end. Alors, on vous salue, mais surtout, pas souvent qu'on peut dire bonjour à une légende dans ce show-là. Et c'est le cas, c'est ce qu'on fait présentement. Luc Gélina, comment vas-tu, mon ami?
Salut, ça va, mais je cherche la légende.
C'est toi, je te le donne en mille.
Je te donne une bière.
Écoute, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Je t'en dois une également, fait qu'on va être quitte, vois-tu. Luc, ça arrive pas souvent. Là, on a eu deux belles victoires d'équipe, puis on reviendra peut-être un petit peu plus tard si le temps nous le permet. Mais ça arrive pas souvent présentement dans la Ligue nationale de hockey qu'on voit des gardiens de but. T'sais, c'est pas juste à Montréal, là, jouer deux parties en 24 heures. Samuel Montembeau a réalisé ça avec brio.
Bon, c'était, je dirais pas fréquent, mais c'était pas inhabituel il y a 20 ans. Tu sais, les Brodeurs et compagnie là, avaient des grosses charges de travail. Maintenant, t'es suivi, ce sont des athlètes de pointe qui sont surveillés de près, on fait plus ça. Mais là, tu sais, dans le premier match, Montembeau a fait face à 28 tirs, puis c'est pas juste ça, l'autre affaire, c'est que Kaden Primo fait pas le travail. Mais ça démontre beaucoup pour moi, cette semaine-là, il y a comme un message. C'est pas un message, en fait, c'est on a confirmé le discours de début de saison, c'est que oui, on veut progresser, on veut développer les jeunes, mais on veut aussi gagner. Puis cette semaine, on est allé chercher un vétéran pour aider le club, pour aider le présent et non pas le futur, ce que Kent Hughes et Jeff Gorton n'ont presque jamais fait pendant la saison. Puis on a donné deux départs au gardien qui est hot, pendant que l'autre gardien ne fait pas la job. Puis dans ces deux matchs-là, Montembeau a donné raison à l'équipe. Hier, vraiment, tout le monde était très, très bon devant lui, mais il a joué deux matchs, il a donné quatre buts, moyenne de 918. Puis si tu regardes depuis le 3 décembre, ça c'est pourquoi je parle du 3 décembre, c'est que sa séquence de 9 départs consécutifs a commencé là. C'est le retour au jeu de Patrick Laine. Puis aussi, c'est le premier match qu'il jouait, tout en sachant qu'il était sur l'équipe canadienne. Puis ouais. Je pense pas que ça a eu un incident. Je pense pas que Montembeau était plus motivé de dire hey, « je vous démontre que vous avez eu raison de me choisir ». Mais depuis, dans ces 9 départs consécutifs, dans cette séquence-là, il y a Lino Sulmark qui a plus de victoires que Montembeau, 7. Puis 7 victoires, aucune défaite. Là. Taux d'efficacité absolument extraordinaire de 967. Puis après, quand t'autres Lino Sulmark, depuis le 3 décembre, tu tombes avec des êtres humains. Puis t'as Markstrom, Lebach et Montembeau qui ont 6 victoires. Ça fiche 6-3, sa moyenne 2,37. 915, son taux d'efficacité dans ses 9 derniers matchs. Il va être devant le filet demain aussi à Columbus. Là. Ça va être un 10e départ de suite. Puis je peux pas voir la façon dont il joue, là, comment on va être capable de gérer ça, probablement en Floride, mais même à ça, quand on va voir Primo devant le filet.
Est-ce que selon toi, ça annonce, puis tant mieux, Montembeau, même au début de la saison, on doutait. Aura-t-il la prestance finalement d'un numéro 1? Je pense que dans le cœur des partisans, on voulait voir ces performances-là de Samuel Montembeau et on les voit finalement. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On n'arrête pas de parler de Lane Hudson, de Patrick Laine et avec raison. Mais Samuel Montembeau, présentement, tu l'as bien dit avec toutes ces statistiques-là, fait le travail d'un numéro 1 et je veux dire, tant mieux si le calendrier permet qu'on peut l'avoir le plus longtemps possible devant le filet. Par contre, une saison, c'est 82 matchs ouais. Et ça va prendre un numéro 2 également. Là.
Ben oui, c'est clair. Mais ce que j'ai aimé en fin de semaine, c'est que t'as pas eu besoin que Samuel Montembeau ait une étoile pour gagner les deux matchs. Si tu regardes les autres parties d'avant, là, je pense qu'il y avait tout le temps une étoile à chaque victoire. En fin de semaine, ça a été du travail collectif. Tout le exact. Monde a des points, sauf Dak, Newhook, puis Goulet à la ligne bleue. Tout le monde a contribué à l'attaque. Le temps de jeu a été bien réparti. Hey, ton quatrième trio là dans les deux derniers matchs, c'est assez extraordinaire. Heinemann, c'est un but, une passe dans le match à Détroit. Un but hier. Evans, un but, une passe à Détroit. Un but hier. Armia, +3 à Détroit, +2 hier. ce quatrième trio-là fait vraiment de la grosse job dans un temps de jeu limité. Tout le monde met l'épaule à la roue. Il y a le deuxième trio qui inquiète là, à force égale. Tu sais, l'année, on parle de lui avec raison. À force égale, je trouve qu'il y a de plus en plus de beaux flashs.
Une couverture défensive hier, après le deuxième but, là, Luc, c'est certain que tu as vu cette séquence-là. Là. C'est lui qui est allé tuer le jeu directement devant Samuel Montembeau. Là. C'est beau de le voir aller. Il continue de prendre ses repères. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'avantage numérique pour continuer de la mettre dedans aussi. Là.
Ouais, une chance pour lui parce que Dak et Newhook l'éteignent pas mal à force égale. Mais tu as raison sur son engagement. Dans son deuxième match, il avait volé un but aussi, puis il était vraiment dans l'enclave devant Montembeau. Je me questionnais à savoir si c'était, Martin, c'est vous me ça dire, un gars qui joue au hockey ou un joueur d'hockey. Dans ma tête, puis dans ce qu'on voyait, puis dans ce qu'on entendait, c'était un gars qui joue au hockey. Mais je suis de plus en plus enclin à dire que c'est un joueur d'hockey qui fait vraiment bien toutes les choses. Le temps va nous le dire, là, à savoir ça va durer combien de temps, mais là, il est heureux, ça fonctionne. Hey, c'est fou, là, sa production l'année. Tu sais, tantôt, je parlais du 3 décembre, son retour au jeu. Le meilleur buteur dans la Ligue, c'est Zach Hyman, qui en a 9. Et ensuite, t'as Genzel, Nylander, Kachuk, puis Laine, qui en ont 8. Puis Laine, mais c'est tout un avantage numérique.
Ah oui, c'est le deuxième marqueur de la Ligue en avantage numérique depuis le début de la saison.
Ouais. Ouais, la liste, de jouer. Tous les joueurs qui ont plus de buts que lui en avantage numérique cette année, ça se limite à un Braden. C'est fou, hein?
Tous les joueurs principaux sont au nombre de un Braden Point. C'est à peu près ça. Mais vois-tu, et j'essaie pas de chercher de bébite, mais je sais qu'il y a certains. On m'a posé la question. Il y a certains partisans qui se posent la question. Si Patrick Laine, admettons, là, en compte, je sais pas moi, 22 sur l'avantage numérique d'ici la fin de la saison, et il n'y a que quelques buts à forces égales. Toi, personnellement, vois-tu un problème avec ça? Moi, j'en vois pas du tout, du tout.
Ben, non, j'en vois pas. S'il continue de progresser, pis, tant qu'il joue avec Dak et Newhook, je veux dire, ce sera pas facile. Là. T'sais, honnêtement, Kirby Dak, je pense qu'on ne veut plus fesser dessus personne. Là. Mais tu regardes.
C'est pas une histoire de fesser dessus, Luc. T'as tout à fait raison. C'est pas notre genre, mais faut appeler un chat aussi un moment donné.
Tu sais, j'ai sorti ce matin avant qu'on jase pour le fun les stats depuis le retour au jeu de l'année. Il y a 9 matchs de jouer.
Ouais.
Meilleur marqueur de l'équipe, c'est Suzuki, 10 points. Ensuite, Hudson, 10 points. L'année 9, Caulfield 8. Après, t'as le quatrième trio complet. Evans 7, Armia 5, Heinemann 5. C'est pas normal. C'est pas normal. Une chance que l'avantage numérique a fonctionné. Pendant ce temps-là, Dak, un but. On s'en souvient, c'est un cadeau, un filet désert sur une passe de Slavkovski. Newhook, un but. C'est ton deuxième trio. Ils ont beaucoup plus de temps de jeu, de qualité. Puis ils ont du temps de jeu sur le deuxième avantage numérique, ce que Evans, Armia, Heinemann n'ont pas.
Crois-tu
ce trio-là, mais je vais dire ce duo-là, mais c'est le trio parce que Laine est pris là-dedans. Il devient pratiquement un boulet pour le reste de l'équipe. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouf. Tu sais, puis la solution, c'est-tu bouger Heinemann, le monter? Hey, il est rendu à 8 buts, je pense. Si-tu monter Heinemann?
Ben, j'allais te la poser, la question, justement, parce que Martin Saint-Louis, après le match.
Ils vont tellement bien, les trois ensemble.
Non, c'est correct. Oui, ils vont bien, les trois ensemble. Mais Martin Saint-Louis a dit hier, après le match, je trouvais ça intéressant, il dit. Heinemann est directement dans la bonne chaise. Il est à la bonne place où est-ce qu'on le voit présentement. Est-ce qu'il voulait dire ça justement parce qu'il n'y a pas les couvertures des meilleurs trios adverses puis ça lui permet de se démarquer puis marquer? Mais il mériterait de monter puis d'avoir peut-être un peu de temps de jeu avec Laine justement. Là.
C'est ce qu'on aime de Kirby Dak. C'est un gros bonhomme qui a quand même un bon lancer qui va au filet quand tout va bien. Exactement. Heinemann a ça dans son coffre à outils, là. Il est bon dans ses batailles un contre un, il est gros, il est capable de jouer gros, il a un bien meilleur lancer que Kirby Dak, il a un lancer différent aussi. Ça pourrait être lui qui pourrait avoir une promotion pour essayer de complémenter un peu Newhook et Laine. C'est sûr que c'est en même temps comme Martin Saint-Louis dit, il est dans la bonne chaise, puis tu veux pas peut-être briser ce que ton quatrième trio t'apporte. Il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment donné avec Kirby Dak, c'est clair.
Oui, effectivement. Et plus tôt que tard, s'il vous plaît. T'sais, là, on semble vouloir voir un réveil de Slavkovski.
J'aime ce que je vois. Hier, je pense qu'il a joué ses deux meilleurs matchs de l'année en fin de semaine. Ouais. Il est beaucoup plus dynamique. Tu sais, l'année passée, en deuxième moitié de saison, ce qu'on aimait de Slavkovski, là, en tout cas, ce que moi, j'appréciais beaucoup, c'est qu'il était souvent le premier à fond de territoire. Il faisait avorter des jeux en territoire offensif. Il coupait des relances de l'ennemi. Le Canadien prolongeait son temps en territoire adverse quand il était sur la patinoire. Il avait plus souvent la rondelle. Il était même créatif un peu cette année. C'est sûrement une question de confiance, c'est pas une question de volonté, mais tu sais, souvent, il arrive en territoire adverse, quand même en accélération pour une poursuite de rondelle, puis là, il regarde à gauche, il regarde à droite, il y a de quoi qui fonctionnait pas. J'ai trouvé qu'il avait joué du hockey plus actif, les pieds bougeaient mieux, puis il jouait moins sans réfléchir en fin de semaine. En tout cas, je dis pas qu'on revoit tout de suite le Slav de l'année passée en deuxième moitié de saison, mais il y a eu vraiment des beaux flashs en fin de semaine. J'ai vraiment aimé ça.
Tu sais, l'an dernier, on l'a dit un petit peu plus tôt, là, il s'est réveillé au mois de décembre. Moi, j'ai identifié le match contre les Islanders quand on a reçu les Islanders au mois de décembre. C'est à ce moment-là qu'on a semblé vouloir voir Slavkovski se réveiller avec le premier trio. Et je pense que ce qu'on vient de voir, là, les deux matchs contre les Red Wings de Détroit, c'est exactement la même chose que l'an dernier. C'est peut-être là qu'il est reparti. Là.
Sauf que ce qui est décevant, c'est que l'an passé, tout le monde pouvait comprendre. S'il est arrivé à 18 ans, il se blesse dans le temps des fêtes. Il est comme 6, 7, 8 mois sans jouer du hockey de la Ligue nationale. C'est un gros bonhomme. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Ça prend du temps. Là, cette année, il est arrivé au camp. Il y avait Martin Saint-Louis, là, quand le camp d'entraînement a commencé, sur son tableau, c'était écrit Caulfield, Suzuki, Slavkovski, un crochet à côté. On se casse pas la tête avec ça.
C'était réglé.
Ils ont laissé l'année passée.
Ouais.
Slav s'est entraîné fort, il a maigri un peu, il a perdu du gras de bébé. Il joue 6 matchs, il est obligé de sortir Slav parce que ça marche pas. Puis l'autre affaire, c'est que là, Dak, on sait même plus si c'est un joueur de centre ou un ailier. Il met Dak avec Suzuki.
On sait même plus si c'est un top 6.
Là, c'est... Mais heureusement, le Slav semble revenir, puis il faut être patient. T'sais, tu vois Connor Bedard, une superstar identifiée comme tout le monde, par tout le monde comme un joueur générationnel. Là, ça va mieux depuis 4-5 matchs, mais le début d'année n'a pas été facile. On comprend qu'il n'y a pas d'équipe quand même là, à Chicago, mais quand même cette année, si tu regardes juste la production offensive, ton début d'année est décevant à Connor Bedard.
Là, il est à quoi? 29 points avec ce qu'il y a eu hier, je pense, 2 passes encore une fois. Donc oui, effectivement, il semble se replacer, puis tant mieux s'il peut monter en haut du point par match.
Je pense que Luke Richardson a perdu sa job à cause de ça. Pas à cause du rendement des Blackhawks. Personne ne s'attend à ce que les Blackhawks gagnent. Mais on s'est probablement dit à Chicago, là, il se passe de quoi? Il appuie pas sur les bons boutons avec lui. Ça prend un coach qui va mieux comprendre, qui va mieux le cerner. Puis depuis qu'il y a eu changement d'entraîneur, c'est sûrement pas un hasard. C'est à partir de ce moment-là que Connor Bedard s'est mis à ramasser plus de points.
C'est un excellent point que tu amènes. Avant de te laisser, Luc, il nous reste une petite minute, mais tes impressions, 2 matchs d'Alex Carrier maintenant, il semble déjà pour être un poisson dans l'eau là, pour moi.
Ouais, j'aime vraiment ça. Tu sais, tantôt, je parlais de Kent Hughes qui aide le présent. Là, tu as un vétéran sur chaque duo à la ligne bleue. Matheson avec Hudson, Carrier avec Goulet, puis Savard avec Jacky. C'est un bon troisième duo, ça. J'aime ce qu'il fait. Il a une présence calme. Il a joué, 18-19 minutes. Beaucoup de présence. Il fait des présences courtes. Puis il fait des jeux qui peuvent sembler anodins, mais qui sont importants. Hier, il y a eu une entrée de zone, là, je me souviens. C'était en troisième période, le long de la rampe. Il est arrivé. Il était entre la ligne bleue puis le cercle des mises en jeu. Du côté droit, il y avait l'option d'essayer de la chipper par la bande, mais il y avait une pression sur lui. Il s'est accoté dans la bande avec le patin, avec la palette. Il a fait mourir le jeu là, le temps que ses coéquipiers arrivent. Puis finalement, on a pris le contrôle de la rondelle. C'est un petit détail, mais c'est un beau jeu de vétéran. Puis en plus, il est tellement content d'être là. Hier, ça a coûté un bras, là. Le Canadien a réussi à ramasser un paquet de billets. Mais il disait à la chambre après ça qu'il avait acheté 7 billets de sa poche. Les autres, il avait réussi à les avoir par l'équipe. J'ai trouvé que les billets étaient pas mal plus chers qu'à Nashville.
Oui, puis c'est pas donné à Nashville non plus, mais on sait effectivement qu'à Montréal, dans les Rouges, c'est pas donné. Luc, hey, merci, c'était notre première collaboration. On a encore quelques jours à faire ensemble, puis c'est un énorme plaisir, tout un honneur pour moi. Bon voyage vers Columbus.
Je pars là, le taxi, je pense qu'il y a ses 4 flashers.
On va te laisser aller pour que ça te coûte plus cher. Bon voyage vers Columbus, puis on se reparle demain matin, mon ami.
On se jase demain. Salut, bye. Bonne fin de
show. Salut, Luc. Merci.